Bonjour à tous. Tous, ça veut dire tous et toutes. Nous allons parler cet après-midi, pendant quelques minutes, d'un moment particulièrement difficile pour le peuple d'Israël, qui est plein d'enseignements pour chacun de nous. J'ai fait lire donc le premier chapitre du livre de Daniel, qui nous parle de quelques jeunes gens. Et quand je dis jeunes gens, on s'accorde généralement à reconnaître qu'ils étaient vraiment jeunes quand sont arrivés les événements dont il est parlé dans le livre de Daniel en général, mais surtout dans le premier chapitre et le deuxième texte que nous avons lu, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Daniel et ses compagnons avaient sans doute entre 10 et 15 ans quand ils ont été... quand leur pays a été envahi par le roi Nebuchadnezzar et l'armée de Babylone, qui, vous le savez sans doute, a été une des grandes armées, un des grands empires de l'Antiquité relativement proche, puisque les événements en question se situent à peu près 6 siècles avant notre ère. Alors ça fait bien sûr longtemps pour nous, ça fait 2600 ans, mais c'est une antiquité assez proche, 500-600 ans avant la venue de Jésus. Le royaume d'Israël a été envahi, le pays d'Israël a été envahi par un envahisseur, le roi Nebuchadnezzar et ses armées, qui était un envahisseur cruel. Je ne vous décris pas les châtiments que le roi a infligés à ceux qu'il a fait prisonniers en dehors de Daniel et des autres. Bien sûr, il a gardé Daniel et les autres pour les emmener dans son pays, sans les martyriser, pour une raison toute simple, c'est que c'était des jeunes gens qui étaient de race royale, donc de la famille du roi, à des degrés plus ou moins proches ou éloignés, mais c'était des jeunes qui avaient du sang royal dans les veines, et c'était des jeunes qui, par conséquent, avaient reçu une éducation particulièrement brillante. Et c'est pour ça que le roi a fait venir avec lui en Babylonie un certain nombre de gens, de catégories de classe sociale, qui avaient des compétences particulières. Quant aux autres qui n'avaient pas de compétences particulières, il les a souvent fait massacrer, et de manière souvent très cruelle. Alors, on pourrait se dire, mais quel rapport a ce texte avec nous aujourd'hui? Nous vivons dans un pays relativement tranquille, malgré ce qu'en disent certains hommes politiques, mais nous sommes relativement en paix, pour ne pas dire en paix tout court, dans notre pays, nous, dans toute la zone européenne et même plus loin. Nous vivons relativement en paix, mais il est vrai qu'il y a des pays dans le monde qui ne vivent pas dans la paix. Il y a des pays dans le monde aujourd'hui qui vivent dans la détresse. Il y a des pays dans le monde aujourd'hui qui vivent dans la violence, dans la guerre, et qui connaissent eux aussi, comme au temps de Daniel, des massacres. Ce que je voudrais cet après-midi, sur quoi j'aimerais que nous nous arrêtions cet après-midi, c'est sur la manière dont ces jeunes gens, Daniel et ses trois amis en particulier, puisque c'est d'eux en particulier que parle le livre de Daniel, c'est la manière dont ces jeunes gens ont vécu ce drame, parce que quand on a entre 10 et 15 ans, la Bible ne le dit pas, mais on peut peut-être imaginer que leurs familles ont été massacrées, qu'on a gardé seulement eux parce qu'ils étaient jeunes et parce qu'ils représentaient un certain avenir, parce qu'ils pouvaient se rendre utiles dans le pays de l'envahisseur, de Nebuchadnezzar. Mais peut-être que leurs familles ont été massacrées, en tout cas leur entourage sans doute. Et puis ils n'ont que entre 10 et 15 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à 10 ou 15 ans, être déporté dans un pays situé à plus de 2000 km, avec des coutumes, des façons de vivre, un style de vie très différent, et surtout emmené de force par un envahisseur qui s'est montré particulièrement violent et cruel envers leur peuple, ce n'est pas une expérience facile à vivre. Cependant, et c'est là l'intérêt pour nous cet après-midi, cependant, ces quatre jeunes gens ont bien surmonté cette épreuve. Ils ont bien surmonté la difficulté, ils ont fait face à l'angoisse, parce qu'il y avait certainement de l'angoisse chez eux, en voyant ce qui leur arrivait. Ils ont vécu peut-être le voyage jusqu'à Babylone dans la crainte et le tremblement, sachant ce qui était déjà arrivé à d'autres Israélites à côté d'eux à Jérusalem, ils se sont dit « qu'est-ce qui nous attend là-bas ?» Et pourtant, tout au long de leur expérience, ils vont se montrer d'une grande fidélité à Dieu, et nous allons voir que c'est cette fidélité à Dieu qui leur a permis de traverser l'épreuve. Je crois qu'on peut dire que personne d'entre nous ne sait de quoi l'avenir sera fait pour lui ou pour elle. Vous qui êtes jeune, plus jeune que moi, et moi-même qui suis plus âgé, personne de nous ne sait de quoi demain sera fait, de quoi son avenir sera fait. Rien ne prouve que nous vivrons dans l'avenir des moments difficiles comme Daniel, mais rien n'empêche de le croire non plus. Nous vivons, comme je l'ai dit tout à l'heure, relativement en paix, mais personne d'entre nous ne sait combien de temps cette paix durera, et si elle durera toujours. Nous avons des raisons de croire, d'après l'actualité d'aujourd'hui, et puis d'après aussi la parole de Dieu, que le monde connaîtra dans l'avenir des moments difficiles, très difficiles. Si nous lisons bien certains livres du Nouveau Testament, et même de l'Ancien Testament, si nous lisons bien, par exemple, l'Apocalypse, nous voyons que des temps très difficiles vont venir pour la Terre. Quand ? Nous n'en savons rien. Dans un an, dans 6 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nous n'en savons rien. Je crois qu'il est important pour nous de tourner nos yeux pendant quelques instants sur la manière dont ces jeunes ont vécu. Alors nous avons lu au chapitre 1er que Daniel et ses 4 compagnons, Anania, Michaël et Azaria, ont pris une décision dès leur arrivée à Babylone. On peut même penser qu'ils ont mûri cette décision pendant leur voyage. Tout d'abord parce qu'ils avaient été visiblement élevés dans la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu était importante pour eux, comme pour tous les juifs pratiquants. La parole de Dieu était leur repère. David avait dit un jour dans un de ses psaumes, le psaume 119, « Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Cela veut dire que la Bible, on ne l'appelait pas la Bible à l'époque, bien sûr, mais on l'appelait plutôt la Torah, mais la parole de Dieu était un fondement essentiel de leur foi et donc de leur vie, puisqu'ils vivaient en pratiquant cette parole. Lorsqu'ils arrivent à Babylone, il nous est dit que le roi a fait rechercher parmi tous les jeunes israélites, tous les jeunes juifs qui avaient été amenés en captivité, quels étaient les plus brillants, les plus beaux, les plus intelligents, ceux qui avaient le plus de sagesse. Il a demandé qu'on les prépare pour se mettre à son service. Alors, je crois qu'on leur a demandé de se préparer pendant 3 ans. Ils ont été confiés à un homme du personnel de la cour royale et on leur a proposé tout de suite, on leur a imposé, on leur a dit, le roi veut que pendant ces 3 ans, vous soyez bien nourris, que vous buviez du bon vin. C'était ce qui est écrit, hein, je n'invente rien. Bon, moi, ça ne me serait peut-être pas venu à l'idée de former des jeunes de cet âge-là à manger bien, c'est une chose. Peut-être qu'ils avaient du foie gras tous les jours. Parce qu'il paraît, il est écrit que le roi a voulu qu'ils mangent la même nourriture que lui et qu'ils boivent la même boisson que lui. Donc, l'excellente nourriture, la meilleure soit-il, parce que si les rois ne mangent pas la meilleure nourriture, qui va la manger ? Donc, le roi faisait porter à ses jeunes la meilleure nourriture de sa table et son meilleur vin. En tout cas, c'est ce qu'il a demandé à son représentant. Et bien sûr, Daniel n'était pas habitué à manger cela. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y avait dans la foi d'Israël des restrictions alimentaires. Il y avait des choses que Dieu ne voulait pas que son peuple mange. Je ne sais pas s'il leur avait... Apparemment, il ne leur avait pas interdit le vin, mais ce n'est pas tellement le vin qui est en cause, c'est la nourriture. Il y avait des nourritures que la loi de Dieu décrétait comme étant impures. Et bien sûr, manger les mêmes choses que le roi allait manger, c'était bien sûr un problème pour eux. Alors Daniel, vous l'avez lu avec moi, Daniel a fait cette proposition au responsable de sa formation pour entrer à la cour du roi. Il lui a dit, écoute, nous ne pouvons pas manger toutes ces choses. Nous ne pouvons pas boire toutes ces boissons. Nous voulons manger et boire autre chose parce que notre religion, c'est le moment de le dire, notre religion nous en empêche. Et nous te demandons de nous accorder cette faveur. Alors, l'homme s'est interrogé, et puis, bon, il a décidé que c'était bon. On allait leur proposer, mais Daniel a dit seulement 10 jours, juste pour que tu voyes. Pas 3 ans, parce que 3 ans, c'était pour le chef, le représentant du roi, un risque. Les nourrir de légumes et d'eau pendant 3 ans, ça allait être sans doute un gros risque. Et l'homme a dit à Daniel et ses compagnons, « Si je vous accorde ce que vous me demandez, et si au bout de 3 ans, le roi voit que vous êtes en mauvaise santé, il va m'interroger, et c'est moi qui passerai un mauvais moment. Plutôt, le roi me fera mourir. » Alors Daniel a dit, « Seulement 10 jours pour que tu voyes les effets. » Alors pendant 10 jours, Daniel et ses amis ont mangé, je crois que c'est écrit, que des légumes. Et je suppose n'ont bu que de l'eau. Et la Bible dit qu'au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage, ils étaient plus en forme que les autres. Alors bien sûr, la Bible ne veut pas nous dire simplement que dans la vie, c'est le régime qui est essentiel, le régime alimentaire. Ne mangez que des légumes et ne buvez que de l'eau et vous verrez, tout ira bien. Je crois qu'il y a une intervention de Dieu derrière. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vivre toute sa vie en ne mangeant que des légumes. Il est certain qu'on ne grossira pas beaucoup, ça c'est sûr, mais je ne sais pas dans quel état on sera à la fin. Le message n'est pas celui-là, ce n'est pas une question de régime. C'est une question de respecter la loi de Dieu qui interdisait de manger certaines choses. Et c'est une question d'être fidèle à Dieu. Daniel et ses amis avaient été formés dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu interdisait certaines choses. Et Daniel et ses amis, arrivés dans ce moment difficile, auraient pu se dire, pour être sûr d'être tranquille, acceptons de faire tout ce qu'on nous demande de faire. Ne nous posons pas de questions. Si nous mangeons les mets du roi, ils auraient pu même se dire, j'en connais qui se seraient dit, bah, si on mange les mêmes mets que le roi et qu'on boit le même vin que le roi, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ? En plus, on sera tranquille, puisque le roi appréciera qu'on ait fait cela, et on sera tranquille jusqu'à la fin de notre vie. Il suffit d'obéir à notre nouveau roi. Mais Daniel et ses amis n'étaient pas de cet avis. Ils ont pensé que Dieu n'apprécierait pas cette infidélité. Et nous voyons ici que la détermination de Daniel et de ses 3 amis a été la clé. D'abord parce que la clé de leur succès par la suite, d'abord parce qu'au bout de 10 jours, ils étaient plus en forme que les autres. Alors je suppose que le régime, ils l'ont adopté pour le reste des 3 ans. Et parce que lorsque les 3 ans se sont achevés, le roi a demandé à voir les jeunes gens, et quand on a vu ces 4-là, non seulement ils étaient en parfaite forme, en parfaite santé physique, mais la Bible dit que Dieu leur avait donné aussi des capacités que n'avaient pas les autres. La première morale de cette histoire, c'est que quand on fait confiance à Dieu et qu'on veut à tout prix lui rester fidèle, Dieu met sa main sur nous. Dieu est fidèle. La Bible dit que Dieu est toujours fidèle et que lorsque nous sommes fidèles à Dieu, il nous bénit. Daniel et ses amis avaient une conviction. Cette conviction, nous allons la retrouver un peu plus loin dans le texte qui a été lu au chapitre 3. Quelques temps après, vous savez que Daniel donc a reçu un poste important à la cour de Pharaon, à la cour de Nebuchadnezzar, pardon, je me trompe de pays. Et ses 3 amis ont reçu aussi des grandes responsabilités, puisqu'on leur a confié l'administration, la gestion de toute la province, de toute la région de Babylone. Ils avaient donc tous les 4 des postes très importants, parce qu'ils avaient été jugés meilleurs, plus compétents que tous les autres. Mais voilà, la vie n'est pas exempte de souffrances et d'épreuves. Leur foi en Dieu, qui est déjà remarquable, va être mise à l'épreuve une fois de plus lorsque le roi Nebuchadnezzar va faire construire une très grande statue le représentant. Il est question de ces statues au chapitre 3. Et il va exiger que tous les sujets du royaume s'inclinent devant ces statues. Alors évidemment, nos 3 amis ne peuvent pas faire cela. Ils sont hébreux, ils sont juifs, ils connaissent le seul vrai Dieu, ils lui sont fidèles. Et devant cette épreuve, ils ne vont pas hésiter, ils vont dire « Nous n'adorerons pas la statue ». Alors, bien sûr, il y avait des jaloux, et les hommes qui étaient jaloux d'eux vont les dénoncer. Et que va faire le roi? Nous n'avons pas le temps de lire le chapitre 3, mais vous connaissez tous l'histoire de la fournaise ardente. Le roi, quand il apprend par certains de ses amis que les trois amis de Daniel n'était pas concerné par cette épreuve, mais que les trois amis de Daniel ne se sont pas prosternés devant sa statue, va décider de les envoyer dans une fournaise, un feu particulièrement brûlant, comme tous les feux, mais ils disent que la fournaise a été ensuite chauffée beaucoup plus fort encore, et ils demandent qu'on jette les amis dans la fournaise. Alors avant cela, il leur dit, maintenant, Anania, Shadrach et Azaria, je vous demande de vous prosterner, sinon je vous jetterai dans la fournaise, dans le feu brûlant. Et ce sont les paroles qui ont été lues tout à l'heure, les trois versets, qui sont remarquables, qui montrent que lorsqu'on est croyant, je dirais aujourd'hui lorsqu'on est chrétien, si l'on est déterminé à faire confiance à Dieu, on risque de vivre de formidables expériences. Il est dit ici, et ce sont ces paroles qui sont très instructives au chapitre 3, verset 16, lorsque les amis de Daniel répondent au roi qui leur intime l'ordre de se prosterner devant sa statue, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, ô roi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ces paroles sont remarquables, pourquoi? D'abord, les amis de Daniel reconnaissent que Dieu est tout-puissant, qu'il est capable de libérer, s'il le veut, quand il le veut, n'importe lequel de ses enfants. Même s'ils sont jetés dans une fournaise ardente, il est capable de les protéger pour qu'ils ne brûlent pas et qu'ils ressortent indemnes de cette fournaise ardente. Mais ce sont les paroles du verset 17 qui sont intéressantes. Pourquoi? Et du verset 18. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il en est capable, il est tout puissant. Et ensuite, ils disent, il nous délivrera de ta main. Comment cela? Soit en les sortant de la fournaise, soit en les protégeant pour que le feu ne les atteigne pas, soit ils peuvent aussi être délivrés de la main du roi en brûlant dans la fournaise. Et c'est ce que sous-entend cette phrase. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils disent « il peut nous délivrer et il nous délivrera », sinon, s'il ne le fait pas, si notre Dieu ne nous délivre pas de cette épreuve, de toute façon, nous ne servirons pas tes dieux, quoi qu'il arrive. Cela veut dire nous sommes prêts à mourir si Dieu décide de ne pas nous libérer parce que c'est notre dernière heure qui est arrivée. Vous savez que dans la Bible, on voit souvent que Dieu intervient de manière différente selon les personnes. Nous lisons par exemple dans le livre des Actes des Apôtres qu'à un certain moment, l'apôtre Jacques a été arrêté sur ordre du roi Hérode et le roi Hérode a demandé qu'il soit décapité. Il a ordonné, pardon. Et Jacques a été décapité. Puis nous voyons que dans les jours qui ont suivi, c'est l'apôtre Pierre qui a été arrêté. Et d'ailleurs, toute l'Église pensait qu'il allait subir le même sort. Parce qu'il est dit, le roi Hérode fit arrêter aussi Pierre parce qu'il voyait que cela plaisait aux Juifs que Jacques avait été arrêté et mis à mort. Alors, pour leur faire plaisir, il fait arrêter Pierre aussi. Et il s'apprête certainement à le supplicier, à le faire décapiter comme son ami Jacques. Mais la Bible dit, dans la nuit, Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre. Dieu n'avait pas envoyé d'ange pour libérer Jacques. Et pourquoi cela? Parce que dans le plan de Dieu, nous avons tous un avenir différent. Celui qui met sa confiance en Dieu a toujours la certitude que Dieu veillera. Certains d'entre nous, peut-être, vivront 90 ans. Eh oui, les jeunes, il y a encore du temps. Mais peut-être que d'autres mourront à 50 ans. Personne d'entre nous ne le sait. La seule chose que je suis sûr, c'est que j'aurai vécu sur cette terre au moins l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais je ne sais pas si je vivrai encore 1 an, 6 mois, ou 30 ans, ou plus. Personne d'entre nous ne sait ce qu'il adviendra. Et c'est ce que disent les jeunes amis de Daniel. Ils disent, notre Dieu, devant cette épreuve, nous sommes jeunes, vous avez peut-être 20 ans au moment de cette épreuve, 25 ans ou 18 ans. Et bien sûr, mourir à 18, 20 ou 25 ans, c'est dommage, c'est un peu tôt. Mais ils disent, de toute façon, nous savons que Dieu peut nous libérer. Nous savons que Dieu, de toute façon, va nous libérer de ta main. Mais même s'il ne nous libère pas maintenant de cette fournaise ardente et que nous devons y périr, nous n'adorerons pas ta statue. Nous resterons fidèles à Dieu, quoi qu'il arrive. Je me rappelle d'un jeune homme qui était malade, qui avait un jeune chrétien qui avait des problèmes graves aux yeux et qui devait se faire opérer. Et on ne garantissait pas que l'opération allait lui permettre de s'en sortir, peut-être même qu'il pourrait se retrouver aveugle. Et je me souviens que ce garçon nous avait écrit une lettre, et nous étions deux pasteurs, nous travaillions ensemble, et il nous avait dit « Priez pour moi pour que le Seigneur me guérisse de mes yeux, pour qu'il guérisse mes yeux. Mais s'il ne me guérit pas, je continuerai à le servir. » Et c'est cela la véritable conviction. Dans la Bible, nous voyons que des gens ont eu une pareille détermination, une pareille conviction. Je lis par exemple que Job, vous connaissez Job qui a vécu un grand malheur, qui a vu leurs enfants mourir, il a perdu tous ses troupeaux, il a perdu tous ses biens matériels, et il ne lui est plus resté que sa femme. Certains diront, ben c'est déjà bien, mais sa femme lui a dit, écoute Job, maudit Dieu et meurs, et comme ça tu en finiras. Alors, c'était quand même pas un bon conseil. Job a enduré la maladie. Il avait le corps couvert d'ulcères. Et au plus profond de son malheur, ses amis sont venus le voir. 4 de ses amis sont venus le voir et les 3 premiers lui ont tenu pratiquement ce langage. Écoute, Job, si tu es si malade que cela, c'est parce que sans doute tu as péché. Et tu récoltes le fruit de tes actions. Et c'est alors que Job a repoussé ses amis, et Dieu plus tard l'a justifié. Mais au plus profond de sa détresse, alors que sa femme se détournait de Dieu, alors que ses amis l'accusaient, Job a dit, il y a une chose que je sais, c'est que mon rédempteur est vivant, je le sais, et je sais qu'un jour mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'un jour je le verrai. Job avait une conviction. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Paul était en prison parce qu'il avait prêché l'Évangile. Il était en prison et il savait qu'il allait bientôt mourir. Lui aussi, il allait bientôt se faire décapiter par ordre de César Néron. Mais Paul, dans sa prison, a écrit ces paroles extraordinaires dans sa 2e lettre à Timothée. « Je sais en qui j'ai cru et je sais qu'il a le pouvoir de me garder jusqu'au bout. » Je sais en qui j'ai cru. Quelques traductions disent « Je connais celui en qui j'ai cru ». Paul, même dans sa prison, au moment de l'épreuve la plus terrible de sa vie, a su reconnaître qu'il avait une parfaite conviction que de toute façon, sa vie était entre les mains de Dieu. La délivrance n'est pas une obligation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a un plan différent pour chacun de nous. Lorsque l'apôtre Pierre a été repris par le Seigneur parce qu'il avait renié Jésus, vous vous rappelez, au bord du lac, Jésus est apparu, il a multiplié encore une fois les poissons, et puis au bout d'un moment, il a dit à Pierre, « Pierre, écoute-moi un petit peu. » Et ils ont eu un entretien tous les deux, et Jésus a demandé à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et vous savez que Pierre s'est défendu, il a dit, « Oui, Seigneur, je t'aime, oui, Seigneur, je t'aime, 3 fois. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et à ce moment-là, il nous est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 21, Pierre s'est retourné parce que Jésus lui a dit « Un jour, quelqu'un t'emmènera dans un lieu que tu ne voudras pas. » Et Jésus faisait une allusion à la mort de Pierre. Et à ce moment-là, Pierre s'est retourné et a vu son ami Jean, autre disciple de Jésus. Et Pierre a dit à Jésus « Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? Parce que moi, je vais donc être arrêté, je vais donc être mis à mort, mais lui, qu'est-ce qui lui arrivera ?» Et Jésus a dit « Que t'importe ce qui lui arrivera à lui ? Toi, suis-moi. Par cette parole, Jésus a voulu dire encore une fois, chacun a une destinée différente. Certains vivront des moments difficiles. Pierre a été, semble-t-il, décapité à son tour vers l'an 65-66, toujours sur ordre de Néron, l'empereur romain. Mais Jean a vécu jusqu'à un âge très avancé, semble-t-il. Il n'a pas été martyrisé, il a bien sûr été mis en exil pendant quelque temps, mais aucun document ne nous dit que Jean a été martyrisé. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Certains sont libérés, d'autres ne le sont pas. Les amis de Daniel avaient tout compris, puisque lorsqu'ils ont été mis à l'épreuve, ils ont dit, quoi qu'il arrive, nous savons que Dieu est capable de nous libérer. Nous savons que Dieu peut très bien intervenir pour nous délivrer de l'épreuve, mais de toute façon, s'il n'intervient pas, nous ne l'abandonnerons pas. Nous continuerons à croire en lui. Et voilà quelle est la grande leçon de ce texte et de cette histoire de Daniel et de ses compagnons. Vous savez que quelque temps après, nous n'avons pas le temps de le lire cet après-midi, mais quelque temps après, ça a été au tour de Daniel d'être mis à l'épreuve parce que lui aussi ne voulait pas suivre la religion de Babylone. Et lui n'a pas été jeté dans une fournaise ardente, mais il a été jeté dans une fosse aux lions. Alors je ne sais pas ce qui est le mieux. Si vous aviez à choisir entre la fosse aux lions et la fournaise ardente, moi personnellement je ne sais pas encore, peut-être la fournaise ardente, parce que j'espère ne jamais avoir à choisir, parce que bon, on risque de mourir vite avec le feu, mais se faire regarder par des lions et se faire dévorer petit à petit par des lions, je ne sais pas, mais ils n'ont pas eu à choisir, hein. Les uns c'était décrété, c'est la fournaise ardente, pour Daniel ça a été décrété, c'est la fosse aux lions. Et Daniel s'est comporté de la même manière. Quand on l'a descendu dans la fosse aux lions, je peux imaginer, et je suis convaincu, qu'il a dû prier en disant « Seigneur, je sais que tu peux me délivrer. Et de toute façon, tu me délivreras d'une manière ou d'une autre. Mais même si je descends dans cette fournaise et que les lions se jettent sur moi et me dévorent, je ne t'abandonnerai pas, je croirai en toi jusqu'au bout. » Et c'est cette détermination à rester fidèle à Dieu jusqu'au bout qui a permis à ces quatre jeunes gens de passer l'épreuve victorieusement parce que finalement, nous le savons, Dieu les a délivrés de leur épreuve et leur a permis de vivre assez longtemps. On pense généralement que Daniel a pu vivre jusqu'à l'âge de 70, 80, voire même 90 ans et que lorsqu'il a reçu les dernières visions qui sont écrites dans le livre de Daniel, dans les derniers chapitres, il avait peut-être cet âge-là, 90 ans environ. Cela montre que quand Dieu un plan pour nous, et si nous sommes fidèles et que nous entrons dans ce plan, que nous acceptons ce plan, nous n'avons pas à nous inquiéter des épreuves qui viendront, parce qu'il est tout puissant et il accomplira son plan dans notre vie. Que son nom soit béni.